Radio Okapi.
Le journal Pascal Masserica.
À la une de l'actualité ce soir, 14 véhicules incendiés à Irumu, bilan d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADF à Badibense, en territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. Des précisions dans ce journal. Reprise de trafic aérien de la compagnie CAA au Kasaï oriental. Le billet coûte 128 dollars américains. Les passagers estiment qu'ils ne bénéficient pas de la baisse du prix du billet. Les chefs d'escale affirment que la situation sera réglée au plus vite. Notre invité, c'est le coordonnateur de la protection civile basée à Beni au Nord Kivu. Jean-Paul Capitula revient sur la journée internationale des personnes disparues, célébrée le 30 août dernier. Une journée qui rappelle que derrière chaque personne disparue, il y a une famille. Madame, Messieurs, bonsoir. 10 morts, 14 véhicules incendiés et plus de 80 personnes portées disparues. C'est le bilan encore provisoire d'une nouvelle attaque ce mercredi matin des rebelles ougandais de l'ADF à Badibense, en territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Des sources sécuritaires indiquent que des véhicules escortés par les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO en partance pour Beni sont tombés dans une embuscade de ces terroristes. Le récit d'Ezekiel Mouzalia.
11 heures locales que ces véhicules sont tombés dans cette embuscade. Il s'agissait d'un convoi qu'escortaient les militaires des FARDC et les casques bleus de la MONUSCO. Ces engins venaient de quitter le centre des négoces des commandas pour se diriger vers Luna sur la route nationale numéro 4. D'après la société civile locale, ces rebelles ont surgi sur la route pour bloquer les passages à ces véhicules. Ils étaient munis des fusils de guerre et des armes blanches, indiquent nos sources. Après un échange de tirs entre les militaires et ces malfrats, certains passagers ont réussi à s'échapper. Mais selon un bilan encore provisoire donné par la société civile locale, 14 véhicules ont été complètement incendiés. Plus de 80 personnes seraient prises en otage par ces rebelles, souligne une source officielle. Pour l'heure, aucune idée sur le sort de ces passagers, s'inquiète Dieudonné Malangaï, membre de cette structure citoyenne. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, dit ne pas comprendre des attaques à répétition de ces groupes terroristes sur ces taxis routiers où des patrouilles militaires sont pourtant organisées quotidiennement. Le porte-parole de l'armée en Ituri n'a pas encore réagi concernant cette nouvelle attaque. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADF a coûté la vie à 3 personnes dans le village de Maïmoya hier soir. Le président de la société civile locale, qui déplore cet incident, invite les autorités militaires à ne pas négliger les alertes de la population pour éviter que pareille situation ne se répète. Tous nos efforts pour joindre le porte-parole des opérations Sokola 1 se sont révélés vains. Nord Kivu encore, toute circulation de moto-taxis au-delà de 19h est interdite à partir du 4 septembre prochain dans la ville de Goma. Cette mesure du maire fait suite au regain de l'insécurité suivi de meurtres. Cette décision est contenue dans un communiqué rendu public mardi. D'autres précisions avec vous, Gabriel Ouamenia.
Le maire de Goma, Kabeya Makosa François, vient d'interdire la circulation des taxis motos au-delà de 19h sur toute l'étendue de la ville de Goma. La signature de ces communiqués survient après que les taximens motos ont été victimes de tueries par des hommes non autrement identifiés et les vols à répétition de leurs engins roulants devenus monnaie courante dans la ville. Il est strictement interdit à tout taximen motard et autres usagers privés de circuler au-delà de ces heures, indique le maire dans ses communiqués. Dans ces mêmes communiqués, le maire exhorte les motards ainsi que d'autres propriétaires de prendre des dispositions nécessaires pour regagner leur domicile à partir de 18h30. À en croire les mêmes documents, les forces armées se saisiront de tout récalcitrant et à tout autre individu qui ira à l'encontre de cette décision de l'autorité urbaine. Signalons que cette mesure intervient quelques heures après une fusillade impliquant 2 motards, des tirs qui ont fait 1 mort et 7 blessés lundi dernier dans la commune de Karisimbi. Goma, Gabriel Ouameya, Radio Okapi.
Montée de l'insécurité le soir également à Kindu, chef-lieu du Maniema. Très préoccupé par la situation, le président de la société civile a rencontré rencontré le gouverneur intérimaire pour échanger sur les stratégies nouvelles à prendre pour mettre fin à cette situation. Maître Stéphane Kamundala déplore le fait que, selon lui, les services de sécurité ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Il s'est confié à Florence Kizalunga.
Vous savez la situation que traverse la population du Maniema ces derniers temps, qui n'est autre que celle de l'insécurité, des visites intempestives dans les maisons. Et le cas qui a révolté, qui a fâché, c'est celui d'aujourd'hui où la femme a été non seulement tabassée, son mari tabassé, mais en plus violée. Ça fait que la coordination provinciale de la société civile prenne l'initiative de rencontrer le gouverneur et à l'issue des échanges pour monter des stratégies afin de lutter contre l'insécurité, lui comme exécutif provincial et nous comme coordination de la société civile qui est toujours à côté de la population. Nous déplorons d'un le fait que nous avons les services de sécurité qui sont appelés à nous sécuriser, nous populations, de manière régulière et permanente, mais nous estimons qu'ils ne sont pas à la hauteur. Nous pensons à notre niveau, comme société civile, nous n'allons pas croiser les bras, nous allons mener nos actions de maintenant, accompagner l'autorité provinciale et faire d'autres actions à titre individuel, comme société civile, pourvu que la paix revienne dans la ville de Kindu et dans l'ensemble de la province de Maniema.
L'actualité, c'est aussi la reprise de trafic aérien de la compagnie d'aviation CAA au Kasaï Oriental. Suspendue depuis quelques semaines, CAA a repris le trafic sur la ligne Kinshasa-Mbujimayi. Le billet coûte 128 dollars américains tel que convenu par le gouvernement central. Cependant, chaque passager a droit à 5 kilos de bagages. Les passagers déplorent cette pratique et estiment qu'ils ne bénéficient pas de la baisse du prix de billets. Le chef d'escale de la CAA, Mbujimayi, affirme que la situation sera réglée dans un bref délai. Mbujimayi, une correspondance d'Esther Ndalafina.
Le trafic aérien de CAA a repris sur la ligne Kinshasa-Mbujimayi-Kinshasa depuis la fin de la semaine dernière. Le billet d'avion Mbujimayi-Kinshasa coûte 128 dollars conformément à l'arrêté ministériel. Mais chaque passager n'a droit qu'à 5 kilos. Les autres bagages sont déclarés comme étant des excédents et sont taxés à 3 dollars le kilo. Certains passagers s'insurgent contre cette pratique.
Les billets sont à 128 dollars, mais il y a un problème qui s'est opposé au niveau des bagages. 1 kilo à 3 dollars. Ça ne fait du mal parce qu'on a dit que le prix du billet s'est baissé et puis on arrive là, si tu as ta valise, beaucoup de choses là, on n'est pas du tout content. On est content du baisse d'avion, mais pour les kilos et bagages, ça nous complique.
D'autres passagers souhaitent que le gouvernement s'implique pour que des solutions soient trouvées face à cette situation.
C'est tellement pénible. Et si vous faites la totalité de toutes ces dépenses là, ça varie jusqu'à 200 quelques de dollars. Que le gouvernement s'en occupe de tous ces gens ici, c'est comme s'ils sont en train de les douter, ils s'opposent automatiquement au gouvernement. C'est comme s'ils sont indépendants et ils peuvent faire comme bon les semble.
Contacté, le chef d'escale de CAA Mbujimayi reconnaît cette situation. Michel Kayembe affirme que la situation sera réglée dans un bref délai. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Nous aurions souhaité que tous les dossiers traités par l'inspection générale des finances et transmis à la justice soient traités avec célérité, souhait exprimé par Victor Batubenga Padamadi, inspecteur adjoint de l'IGF. Il ajoute cependant que l'IGF ne contrôle pas la justice. Il a dit ce mercredi à Jirlungembo au cours du magazine de Radio Okapi Parole aux auditeurs.
D'abord, le premier dossier qui a été porté sur la place publique par l'inspection générale des finances, c'était le dossier Bukangalonzo et c'était le dossier relatif à la gestion des fonds Covid. C'était le premier dossier. Mais lorsque vous regardez bien, le dossier Bukangalonzo, la justice en est saisie il y a bien longtemps, tandis que le dossier relatif à la gestion des fonds Covid, il n'y a pas longtemps, en fait, que la justice l'a actionné. Donc nous, chaque fois que nous terminons une mission, lorsqu'il y a des faits infractionnels, nous les transmettons aux cours tribunaux et parquets, selon, en fait, la situation de chacun, soit la cour d'appel, soit la cour de cassation, soit la cour constitutionnelle. Évidemment, notre désir à nous, c'est que tous les dossiers que nous transmettons puissent être traités par la justice avec célérité. Malheureusement, ce levier-là, nous ne le contrôlons pas.
Victor Batubenga, inspecteur adjoint de l'IGF, confirme également que depuis le mois de mars, son institution mène une mission de contrôle à la présidence de la République. Les effectifs et les contrats signés par la présidence de la République sont parmi les matières auditées par l'IGF. Vive tension hier mardi au point kilométrique 51 dans le territoire de Mambasa où des conducteurs de taxi-moto protestaient contre l'installation d'une barrière de la police de circulation routière qui fait payer de l'argent aux motards. Selon des sources sur place, le trafic sur la route était paralysé et pour rétablir la quiétude, des policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène. Le commandant de la police nationale affirme que c'est plutôt l'autorité coutumière de Bafoua Bangou qui a érigé cette barrière. À Bounia, Clarisse Zindoula.
Pour manifester leur mécontentement, ces motards ont organisé une marche de contestation. Ils se sont dirigés hier jusque là où cette barrière était érigée, qu'ils ont par la suite arrachée, affirment nos sources. Les éléments de la police ont dû tirer des coups de feu pour disperser les manifestants. Apprend-on, un motard a été appréhendé puis relâché. Toujours selon des sources locales, cette manifestation a démarré depuis au moins 3 jours. Le trafic sur la N4 était paralysé. Les passagers en provenance ou en destination de Kisangani ne savaient plus poursuivre leur voyage. Aux dernières nouvelles, le passage est de nouveau libre sur ce tronçon. Contacté, le commandant de la police en territoire de Mambasa dit que c'est le chef coutumier local qui a instauré une taxe de péage où tous les motards sont obligés de payer 1000 francs. Il s'agit d'une route de déserte agricole récemment réhabilitée par une entreprise d'exploitation minière, ce qui n'enchante pas la population, déclare-t-il. Pour cet officier de la police, les éléments sont accusés à tort dans cette affaire. Bounia, Clarisse Zindoula, Radio Okapi.
Présentation hier mardi à Kinshasa d'un projet pilote de numérisation des soins obstétricaux et néonataux essentiels à l'aide de l'échographie portable sur smartphone. C'est une innovation technologique de la société Soike Soins Quotidiens. Reportage de Jean-Pierre Elali Coco.
Deux temps forts ont marqué cette séance. La présentation du projet et du logiciel et les témoignages des professionnels de santé de Kinshasa. Le président directeur général du SOIAC parle des avantages du projet et du dispositif technologique lié aux consultations prénatales. Kinuyuki Furuta.
Donc notre solution est SPAC. C'est le paquet complet pour le centre de santé pour commencer la CP numérisée. Ça veut dire que ça consiste avec le smartphone et logiciel, et aussi tous les équipements médicaux pour le CPN normal. Donc avec ces paquets, le centre de santé, même au milieu rural, sans électricité, vous pouvez déjà avoir le service de qualité dans le domaine de la santé maternelle.
Pour les secrétaires généraux de la santé, ce projet vient à point nommé. Il contribuera à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en RDC.
Le chiffre de 693 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, c'est encore élevé. Cela montre que nous devons déployer des efforts pour l'offre de services.
Ce projet pilote est expérimenté actuellement au centre de santé Lisanga de Lemba et à l'hôpital général de Kintambo. Il ciblera dans un premier temps 6 provinces accusant un taux élevé de mortalité maternelle.
Merci Jean-Pierre Elali Coco pour ces précisions. Et puis au Kasaï central, une épidémie tue les bêtes dans les territoires de Dibaya depuis plus de 2 mois. Elle se manifeste par une diarrhée et touche principalement les chèvres. L'alerte a été donnée ce mercredi à Radio Capi par le coordonnateur d'une structure de la société civile dénommée Sokodec. Ali Kitoko parlait d'une situation qui a déjà touché plus de 10 000 bêtes. Il le dit à François Kadima.
Ça fait 2 fois que cette épidémie se déclenche et ravage nos bêtes. On ne sait pas ce qu'est une maladie. Lorsque cette épidémie touche la bête s'affaiblit et commence la diarrhée. 2 ou 3 jours, elle succombe. Nous avons demandé si les autorités ou l'exécutif provincial pouvaient venir en aide. Le vétérinaire nous a dit qu'exactement il avait envoyé son rapport plus de 2 fois. Mais notre désolation est que le gouvernement provincial ne parvient pas ni à envoyer ses techniciens, ni à évaluer la situation parce que c'est l'économie de cette entité qui s'effondre. Et nous allons peut-être entrer dans une phase où toute la population sera découragée d'élever. Or, l'élevage constitue une économie forte pour la scolarité de nos enfants, ainsi que même d'autres besoins supplémentaires. Nous évaluons déjà cela à plus de 11 à 12 000 bêtes quand nous parcourons tous les territoires de Djibaye dans tous les 5 secteurs, ainsi que les groupements.
L'information est confirmée par l'infirmière vétérinaire de Dibaya. François Tiaba explique avoir déjà écrit aux autorités provinciales par rapport au vaccin qui doit être trouvé rapidement pour mettre fin à cette épidémie qui touche également les volailles.
Actualité internationale.
Plusieurs centaines de réfugiés afghans sont arrivés ces derniers jours en Albanie, au Kosovo et en Macédoine du Nord. Les pays des Balkans ont été pressés par les autorités américaines d'héberger temporairement ces réfugiés fuyant la prise du pouvoir afghan par les talibans, le temps que les demandes d'asile pour les États-Unis d'Amérique soient examinées au plus vite. Le compte à rebours est lancé en Allemagne. Dans moins d'un mois, les électeurs seront appelés aux urnes pour des élections législatives historiques. En effet, après 16 ans à la chancellerie, Angela Merkel passera la main.
L'invité.
Le 30 août, c'était la journée internationale des personnes disparues, une journée qui rappelle que derrière chaque personne disparue, il y a une famille. Pour en parler, nous recevons ce soir le coordonnateur de la protection civile de Béni, Jean-Paul Capitula, s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Jean-Paul Capitula, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Ce 30 août, c'était la journée internationale pour se souvenir des personnes perdues. Pour vous, de la protection civile, qu'est-ce que cette journée représente?
Et d'abord, je vais commencer par l'hommage à tous ceux-là qui ont été portés disparus depuis les années 2010, vous le savez. Cela a commencé par des kidnappings où on devait parler de raison mémoire docteur Mukongoma. On doit avoir tous les trois prêtres à Mbaou, les deux prêtres à Bunyuka. Là, je ne cite que les hautes éminentes personnes, mais je vois cette population qui, en fait, paysanne, est portée disparue du jour au lendemain, depuis 2010 jusqu'à nos jours. Et cela, pour la protection civile, ça représente une journée à principe où chacun de nous devrait s'arrêter pour dire qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ce genre ne soit pas porté disparu, ou pour que ces gens ne soient pas retournés dans leur famille, et que cela doit interpeller tout le monde dans sa mission, et non seulement les acteurs de protection, et non seulement les acteurs de la défense, mais aussi tous les acteurs de la société civile. C'est vraiment une question que tout et chacun de nous doit se dire, saluer cette mémoire, revoir qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour arrêter cette hémorragie de prendre les gens en otage, et surtout les amener dans les lieux inconnus, les exploiter dans toutes les manières. Parce que certains d'entre eux que nous avons la chance de revoir, d'autres sont exploités sexuellement, d'autres ont été exploités économiquement. Et donc, c'est vraiment une vie de calvaire, une vie de souffrance diabolique, quoi, où on essaye d'utiliser les gens d'une manière ou d'une autre.
Est-ce qu'à l'état actuel, il y a du moins un mécanisme mis en place pour la recherche des personnes disparues?
Tout en ne disant pas contraire avec ce que la défense fait, il y a la protection civile en 2016 avait accédé à une liste de plus de 500 personnes qui étaient retournées. Et je crois que cette liste, si je ne m'abuse, nous devons l'avoir dans nos bases de données. Mais actuellement aussi, vous le savez, certaines fois, il y a des personnes qui reviennent, mais ce ne sont pas tous. Le mécanisme en soi, et ceux qui reviennent parfois, c'est l'armée qui les arrache des forces de main de l'ennemi, ou deux fois, ce sont les personnes qui ont eu le moyen de se soustraire frauduleusement entre les mains de l'ennemi. Et à plus aussi, ceux dont la chance a souri, l'ennemi lui-même le renvoie. Donc, il faudra peut-être qu'on planifie un mécanisme qui est bien coordonné, qui est bien géré, et que toutes les parties prenantes sachent comment nous pouvons faire lorsque l'un de nous est porté disparu pour arriver à le retrouver.
Oui, monsieur le contrôleur. La fois passée, la Convention pour les respect des droits de l'homme, CRDH, avait proposé que la population initie les mécanismes de vite aller auprès de l'État civil ainsi que la protection civile pour identifier leurs membres disparus. Vous êtes d'avis de cette idée de CRDH?
Je crois que moi, je ne dirais même pas que c'est l'idée venue de eux, mais nous avons tout un projet qu'on a construit dans ce sens. Nous avons déjà les ébauches. Je veux vous dire, par exemple, lors des procès qui ont été dits ici par le feu général Mokoutou, la protection civile a émis des actes d'inhumation et des actes de décès que la protection civile elle-même a sensibilisé les familles à autant faire pour essayer de nous éclairer sur la situation des personnes portées disparues, des personnes tuées et j'en passe. Mais c'est un mécanisme qui est contenu dans notre plan de contingence, qui est contenu dans les différents documents de plan de protection. Et que, légalement, c'est un mécanisme aussi connu. La population ignore l'importance des actes de décès et des actes d'inhumation. Et j'ai toujours attribué ça à la souffrance longtemps affectée à cette population. On a déjà une traumatisation. Et des fois, on part du non important et même oublier ce qui est très important. Et donc, je dirais que nous devons ensemble, par contre, avec tous les acteurs de la société civile, les organisations des droits de l'homme et toutes les radios, sensibiliser la population sur l'importance des actes de l'État civil, mais aussi l'importance d'alerter auprès de la protection civile lorsque on a connu un problème de protection.
Monsieur Jean-Paul Capitoula, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Capi, le coordonnateur de la protection civile basée à Beni au Nord Kivu. Jean-Paul Capitoula était interviewé par Marc Marofimbo. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Alain Rungumushish qui m'a accompagné.